non, une indexation à 5,8 ne dégrèvera jamais nos stock options.
On va pas juguler les réajustements périodiques du cash flow.
Attendez, j'y comprends plus rien, là, c'est trop rapide pour moi, j'ai mal à la tête.
Un petit peu plus clair.
Les OPA de la BE ne stoppent pas les PCI à 0,16 TTC proposés par le CNDA à la SPJC. Je dis foncé, il n'y a aucun risque.
Bienvenue dans Splash, le podcast qui jette un pavé dans la mare de l'économie. Je suis Emmanuel Martin, professeur d'éco en prépa à Rouen, et tous les lundis, je décortique avec vous un sujet d'économie. Aujourd'hui, on va parler de faillite d'entreprise, de formation et de gel hydroalcoolique. L'idée, vous allez le voir, m'a été soufflée par l'UNEDIC, notre partenaire sur cet épisode. L'UNEDIC, c'est l'organisme qui gère l'assurance chômage en France, en récupérant d'un côté les cotisations prélevées par l'URSSAF, et en les reversant de l'autre à Pôle emploi, qui indemnise les chômeurs et les chômeuses. L'UNEDIC a aussi un super podcast dédié au bouleversement du marché du travail, intitulé « Point de suspension », dont la saison 4 est animée par Léa Lejeune.
Bienvenue dans « Point de suspension ».
On a déjà parlé de reconversion professionnelle avec Florine Martin de l'UNEDIC, et aujourd'hui on parle d'un sujet directement lié à la crise du Covid et peut-être à d'autres crises à venir. Une crise économique, c'est le moment où la croissance du PIB devient plus faible, voire négative, alors qu'elle était jusque-là positive. C'est exactement ce qu'on a connu en mars 2020, en raison du confinement. Et pendant près de 2 ans, l'activité économique a été très perturbée par les mesures de lutte contre l'épidémie. Confinement, couvre-feu, mais aussi perturbation des approvisionnements pour les entreprises qui dépendent de fournisseurs étrangers. Et comme vous le savez, on n'en est pas encore sorti. On aurait pu craindre une augmentation brutale du chômage. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis, où on a vu les chiffres s'envoler au printemps 2020. En avril et en mai, il y avait chaque semaine de 2 à 6 millions de nouvelles inscriptions à l'assurance chômage. Oui, nouvelle. Donc le total du nombre de chômeurs a atteint 14% des actifs et des actives. Et encore, c'est sans compter toutes les personnes qui ont renoncé à chercher du travail et que l'on classe donc dans les inactifs et les inactives. Et en France alors? Eh bien, le taux de chômage a augmenté de 2 points à peine. Et il est vite revenu à une tendance baissière, au point qu'il a atteint 7,3% en début d'année, soit son plus bas niveau depuis 2008. Il faut remarquer au passage que le marché du travail américain est lui aussi revenu à une situation très favorable, avec un nombre historiquement élevé de créations d'emplois en 2021. Mais en comparaison du très gros flux et reflux du chômage qu'on a observé aux États-Unis, eh bien en France on a eu une vaguelette. Où sont passés les salariés qui ont vu leur atelier, leur usine ou leur bureau fermer leurs portes pendant des mois? Eh bien ils et elles ont conservé leur emploi. Grâce à un dispositif qui a joué un rôle complètement inédit et massif pendant cette crise. L'activité partielle, que l'on appelle couramment le chômage partiel. Les salariés ont continué à toucher la majeure partie de leur salaire, à pouvoir se former et à reprendre le chemin du boulot quand les entreprises ont de nouveau repris leur activité. Ça paraît magique, non? Évidemment, ça ne l'est pas. Derrière l'activité partielle, il y a quelques milliards d'euros de financement, et même quelques dizaines de milliards d'euros depuis 2 ans. Et ça pose une série de questions. Comment on fait pour faire tenir debout ce système? Qui y gagne et qui y perd? Et puis si on prend un peu de recul historique, comment se fait-il qu'on ait à ce point-là financé les entreprises pour qu'elles gardent leurs salariés? Et finalement, est-ce que la prochaine crise, je ne sais pas, mettons une épidémie de variole du singe ou une guerre mondiale, tant qu'à faire, est-ce que la prochaine crise, donc, peut donner lieu au même genre de dispositif? À quoi ça sert le chômage partiel? Commençons par mettre un peu à plat la manière dont fonctionne ce système. À l'origine, en 1918, le chômage partiel est une allocation versée par l'État pour les salariés des entreprises qui souffrent de problèmes d'approvisionnement. Ce dispositif a été réformé à plusieurs reprises au XXe siècle, mais aussi depuis la crise de 2008-2009. L'idée centrale, c'est que les entreprises ne se séparent pas de leurs salariés lorsqu'elles traversent une mauvaise passe. J'en ai parlé notamment avec Coralie Pérez, ingénieure de recherche au Centre d'économie de la Sorbonne, qui a travaillé récemment sur le lien entre activité partielle et formation professionnelle.
C'est un dispositif de la politique de l'emploi assez ancien qui vise à permettre aux entreprises de garder leurs salariés en cas de difficultés temporaires de l'activité liées à des intempéries ou à une rupture dans l'acheminement de matières premières. Donc c'est un dispositif qui permet de compenser en fait le salaire des salariés. Donc c'est l'État et l'UNEDIC qui prennent en charge tout ou partie de la rémunération pendant un temps déterminé. Donc c'est l'entreprise qui fait la demande d'utilisation de ce dispositif au service déconcentré de l'État. en motivant en fait sa demande. Et lorsque cette demande est acceptée, il peut alors faire une demande d'indemnisation, donc de la mise au chômage partiel de tout ou partie de ses salariés. Ce n'est pas forcément une entreprise qui ferme totalement pendant une certaine période, ça peut être la mise au chômage partiel de certains salariés de l'entreprise, un service en particulier.
Si on entre un peu dans les détails, ce dispositif a évolué assez récemment, en 2013. C'est ce que nous explique notre deuxième experte du jour, Oana Calabreso, économiste à l'UNEDIC. Elle a participé récemment à la publication d'un rapport de l'UNEDIC sur le dispositif d'activité partielle mis en place pour répondre aux défis posés par la crise sanitaire.
La place de l'UNEDIC, elle était déjà très présente dans le financement de l'activité partielle. Comme vous le savez peut-être, ce dispositif est un dispositif assez ancien. Tout au début, il était financé exclusivement par l'État, mais progressivement, les partenaires sociaux ont de plus en plus participé au financement, avec un moment très important qui a été le moment de 2013, lors de la création de l'activité partielle. Jusqu'à ce moment, on parlait plutôt, même la terminologie elle est très intéressante, on parlait plutôt de chômage partiel ou chômage technique. Donc, il y a eu vraiment un changement même dans la terminologie utilisée, car en 2013, et ça c'est en lien avec la crise économique de 2008-2009, il y a eu une fusion de deux dispositifs qui existaient à ce moment-là. Un qui était le chômage partiel et le deuxième dispositif qui répondait à des difficultés un peu plus de longue durée, qui était l'activité partielle de longue durée.
Longue durée à l'heure actuelle, ça signifie 36 mois, consécutifs ou non, de réduction de l'activité de l'entreprise. Les entreprises concernées peuvent signer des accords collectifs qui prévoient une réduction de 40% du temps de travail jusqu'à 50% de la durée légale pour les salariés dans des cas exceptionnels. Et ces derniers continuent à recevoir 70% de leur salaire brut, soit 84% de leur salaire net par heure chômée. Mais même pour l'activité partielle normale, entre guillemets, le fonctionnement est le même. Les salariés continuent à toucher une grosse partie de leur salaire et les entreprises sont indemnisées. Oana Calabreso.
Il y a deux choses qui sont importantes. Il y a d'un côté ce qui touche le salarié, et on parle dans ce cas de l'indemnité touchée par le salarié pour l'activité partielle. Et de l'autre côté, il y a l'allocation d'activité partielle qui est touchée par l'employeur. L'indemnité d'activité partielle, elle est versée par l'employeur, c'est lui qui le paye. Et ensuite, il se fait rembourser par la collectivité.
Pour l'activité partielle classique, le salarié touche actuellement 60% du salaire brut et la prise en charge versée à l'employeur est de 36%. Cependant, il y a une évolution qui mérite d'être mentionnée depuis la crise sanitaire. Les allocations versées aux entreprises ne sont plus calculées de la même manière.
C'était 7,74 € par heure chômée d'activité partielle pour les entreprises de moins de 250 salariés et un peu moins, 7,23 € pour les autres entreprises. Car l'idée était que les entreprises de taille plus importante auraient davantage de marge de gérer leur main-d'œuvre. Vous voyez. Et dans ce truc forfaitaire de 7 € et quelque chose, 2,90 € étaient financés par l'UNEDIC. C'est comme ça, ça se passait avant la crise de la COVID. Donc, la crise de la COVID bouscule tout et c'est d'abord à l'initiative de l'État, en concertation aussi avec les partenaires sociaux. Le mode de financement, il a été complètement remis à plat et on passe à quelque chose de différent. En gros, le financement, il est fait à 2/3 pour l'État et le reste, le tiers restant pour l'UNEDIC. Donc, on est 67% de coûts, c'est pour l'État et 33% pour l'UNEDIC. Vous voyez, donc, on passe de cette logique forfaitaire à une logique plutôt proportionnelle, le financement qui est réparti de manière proportionnelle entre l'État et l'UNEDIC.
Si je simplifie, ça veut dire que l'activité partielle est non seulement financée par des fonds publics directement venus de l'État, mais aussi par l'UNEDIC. Ce qui est nouveau, c'est que les entreprises ont eu massivement recours au chômage partiel en 2020 et 2021, dans des proportions jusque-là inédites. Au plus fort de la crise sanitaire, en avril 2020, près des 2/3 des entreprises françaises ont utilisé ce dispositif, et même des entreprises publiques et des particuliers employeurs. Donc la facture a très vite augmenté. Oana Calabreso.
Par exemple, en avril 2020, comme c'était vraiment le pic de l'utilisation, on est sur 8,5 milliards d'euros. Plus de 3 milliards en mars et 4,6 milliards en mai. Donc, vous voyez, c'est vraiment des choses, vraiment des niveaux sans précédent. Au total, depuis le début de la crise sanitaire, sur les années 2020-2021, on est sur plus de 35 milliards d'euros de dépenses liées aux allocations d'activité partielle pour la collectivité.
Il faut ajouter à toutes ces dépenses un manque à gagner sur les recettes pour l'UNEDIC, car les indemnités d'activité partielle ne sont pas soumises aux cotisations. Ça fait presque 3 milliards d'euros de recettes en moins. Où on trouve ces 35 milliards d'euros ? Si vous avez bien suivi, les deux tiers viennent de fonds publics qui ont été débloqués par une loi de finances rectificative. Des transferts de l'État, donc. Côté UNEDIC, la majeure partie du financement de l'activité partielle, c'est de la dette. 11,5 milliards de dépenses ont été ainsi engagées pour financer le dispositif.
Et c'est rien ça, tu me rembourses quand tu veux.
Ok, cool.
C'est pas pressé.
Comment ? En empruntant sur les marchés financiers. L'UNEDIC a contracté des emprunts obligataires de long terme avec la garantie explicite de l'État. Autant dire que ça correspond à des taux d'intérêt extrêmement faibles, moins de 1%, voire parfois des taux négatifs. Au total, 27 milliards d'euros de social bonds ont été émis en 2 ans. Des social bonds, ce sont des obligations émises sur les marchés financiers. Elles ont pour but de financer des projets à forte utilité sociale. Tout ça paraît sans doute énorme, mais après tout, c'est la fonction de l'UNEDIC d'être un amortisseur économique et social, comme elle le dit elle-même. Dépenser plus en indemnité chômage en période de crise, c'est normal. D'ailleurs, on dépense moins et on reçoit davantage de recettes en période de croissance forte. Et ça finit par s'équilibrer grosso modo. En économie, on appelle ça un stabilisateur automatique. Les dépenses sociales en général servent à ce que les crises soient moins douloureuses. Durant cette crise, la stabilisation de l'activité s'est aussi faite directement auprès des entreprises. Celles-ci ont pu avoir accès beaucoup plus largement qu'avant à de la trésorerie pour continuer à opérer, ou plutôt pour attendre de pouvoir travailler de nouveau, tout en conservant leur main-d'œuvre. C'est notamment parce que les démarches nécessaires pour obtenir ces financements ont été simplifiées. Pour l'anecdote, je l'ai moi-même constaté en embauchant un salarié dans une association dont je suis membre, faire une demande d'activité partielle, ça prenait quelques clics sur un formulaire en ligne, et c'était très facile de recevoir les fonds en question. Alors bien sûr, toutes les entreprises n'ont pas la même facilité à saisir ce type d'opportunité. On constate donc, dans ce domaine comme dans d'autres, que les TPE et les PME ont eu plus de mal que les grandes entreprises à en profiter. Par exemple, elles ont eu plus de mal à mettre en œuvre des actions de formation en contrepartie de l'activité partielle. Coralie Pérez.
Il y a toujours, pour les petites entreprises, un problème d'information sur la formation. Et le fonctionnement finalement de cet univers qui reste assez opaque pour les TPE-PME de la formation professionnelle. Beaucoup ne connaissent pas leur OPCO, leur opérateur de compétences, ne mobilisent pas justement ces services. Et puis aussi, ce qu'on nous a dit dans notre enquête, c'est que les petites entreprises… D'abord, dans la crise, leur objectif premier, c'était les problèmes de trésorerie. C'était aussi la gestion très concrète de la crise, se procurer des masques, du gel hydroalcoolique. Et donc, la formation n'était pas la première de leurs préoccupations. Et ça explique pourquoi les grandes entreprises, elles, avec un service de formation dédié, ont vu tout de suite l'opportunité de tirer parti de ce financement possible offert par la puissance publique.
Mais alors, les salariés qui se sont retrouvés au chômage partiel pendant des mois, voire une année complète, qu'est-ce qu'ils et elles ont bien pu faire de leur journée ?
Je ne fais rien, je suis tranquille, je ne fais rien, personne ne m'emmerde, je ne fais rien, je suis tranquille.
Et qu'est-ce que vous faites le reste de l'année ?
Je ne fais rien.
Une partie s'est mise à faire du jardinage, à fabriquer des masques en tissu ou à s'occuper des enfants quand les écoles étaient fermées. Mais assez vite, une petite partie des salariés en question ont pu en profiter pour se former. Coralie Pérez.
Depuis la crise de 2008, l'État français incite les entreprises à former leurs salariés pendant les périodes chômées. Alors, c'est pas seulement en France qui a cette incitation à former pendant le chômage partiel. C'est également le cas dans d'autres pays européens comme l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche. Et dans certains pays, le recours à la formation est même obligatoire pour pouvoir mobiliser le chômage partiel. C'est le cas notamment en Hongrie. Donc en France, l'État a particulièrement incité pendant la crise sanitaire les entreprises à former leurs salariés en dotant substantiellement un dispositif qui s'appelle le FNE Formation, le Fonds National pour l'Emploi Formation. Donc il l'a doté d'une enveloppe de 340 millions d'euros pour l'année 2020. Et il a donc proposé de financer 100% des coûts pédagogiques des formations qui seraient dispensées pendant les périodes chômées. Et cela sans ciblage particulier.
C'est plutôt une bonne nouvelle, ça, non ? Tant qu'à ne pas aller au bureau, on en profiterait pour apprendre des compétences nouvelles qui d'ailleurs pourraient être utiles à votre entreprise en sortie de crise. Oui, mais justement, ce que l'on peut craindre ici, c'est que les formations soient étroitement liées aux besoins immédiats des entreprises et que le dispositif ait en quelque sorte coincé les salariés dans leur boîte. Être au chômage, c'est loin d'être agréable, mais c'est au moins l'occasion de changer d'employeur si vous en aviez marre ou que vous avez envie de faire autre chose. Être au chômage partiel, à l'inverse, ça veut dire garder le même employeur. Est-ce qu'on peut mesurer cet effet-là ? Ce n'est pas évident.
En pratique, il n'y a pas énormément d'études qui le documentent. À notre connaissance, on avait trouvé une étude, mais elle porte pas sur la crise de la COVID-19. Elle porte sur la crise de 2008-2009, la crise économique de 2008-2009. Cette étude, elle se base sur des données de l'OCDE. C'est une étude récente de 2021. Et elle montre que le recours à l'activité partielle durant cette crise-là a été accompagné par des effets de rétention plusieurs années plus tard, surtout dans les économies qui sont caractérisées par une mauvaise allocation sectorielle initiale. Donc, effectivement, ce papier, mais c'est juste un papier à notre connaissance dans la littérature. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas très tranchée.
Une mauvaise allocation sectorielle, ça signifie que certains secteurs peinent à recruter, tandis que d'autres ont un excès d'offres de travail. Ça veut donc dire que les salariés sont mal répartis en quelque sorte. D'autres recherches montrent que, entre les bénéficiaires de l'activité partielle et ceux qui n'en ont pas bénéficié, on ne constate pas de différence significative dans les changements d'employeurs. Autrement dit, il semble que le chômage partiel n'ait pas de gros effets sur la capacité des salariés à changer de boîte, même lorsqu'ils se forment. Tant mieux, après tout, si votre entreprise vous permet de vous former plutôt que de rester inactif ou inactive. Le deuxième effet pervers que l'on peut craindre, c'est le maintien en activité d'entreprises sous-performantes. Rappelez-vous, on en avait parlé l'an dernier avec Nadine Levrato. Si le chômage partiel, mais aussi les reports de cotisations et les prêts garantis par l'État, permettent à toutes les entreprises de survivre, eh bien on reporte à plus tard la fermeture et la liquidation de certaines d'entre elles. Or, il est parfaitement normal que chaque année, des dizaines de milliers d'entreprises naissent et meurent. À vrai dire, donner des indemnités généreuses à des employeurs qui maintiennent en emploi des salariés qui pourraient faire autre chose en changeant d'entreprise, eh bien ça ne rend peut-être pas service à ces salariés. Mais il y a une autre manière de regarder ce constat, d'après Coralie Pérez.
Ce qui est intéressant, je pense, c'est que dans cette articulation chômage partiel formation, il y a des projets de formation qui peuvent être ainsi financés, qui ne le seraient pas dans d'autres circonstances. Ça peut être des projets dormants de formation que le quotidien de l'activité de l'entreprise ne permet pas de réaliser, notamment pour les petites entreprises qui ont du mal à remplacer les salariés qui partent en formation, hein, pour qui ça peut même être un obstacle. Et donc, une période de chômage partiel peut permettre justement de réaliser un projet de formation. D'autre part, quand l'activité partielle se poursuit, parce que les difficultés sont telles que l'entreprise ne peut pas retrouver son volume normal d'activité, articuler chômage partiel et formation peut être le moyen de financer des projets plus ambitieux, hein, de reconversion professionnelle, de repositionnement professionnel de certains salariés, notamment dans le cadre de la transition écologique. Et on en a vu quelques exemples dans notre étude. Quelle serait l'alternative pour l'entreprise ? Il faudrait qu'elle se sépare de ce salarié, qu'elle licencie, pour ensuite recruter des personnes qui ont les compétences demandées. Voilà, donc ça peut être intéressant pour l'entreprise d'anticiper, encore une fois, et de profiter des périodes de chômage partiel pour finalement accompagner les salariés dans ces reconversions.
En fait, ce à quoi on a assisté avec le développement massif de l'activité partielle, c'est à une petite révolution silencieuse. Alors que jusque-là, les crises économiques donnaient lieu à des faillites d'entreprises, à une augmentation du chômage et à un redéploiement des entreprises, des fermetures et des créations de nouvelles entreprises. Ça n'a pas du tout été le cas en 2020-2021. On a mis sous cloche les entreprises, y compris leurs salariés, et on leur a laissé la possibilité de préparer la sortie de crise en leur donnant les fonds publics nécessaires. C'est le fameux « quoi qu'il en coûte » qui a exigé un déficit public très important, 9,2 points de PIB en 2020 et 9,4 en 2021.
C'est le combat de notre existence. Et on va gagner. Quoi qu'il nous en coûte.
Mais aussi une politique monétaire extrêmement accommodante pour pouvoir financer à peu de frais ce genre de dépenses inédites. Alors vous allez me répondre, oui, mais c'était une crise exceptionnelle, on n'avait jamais rien connu de semblable. D'accord, mais depuis 2020, beaucoup d'entreprises ont pris l'habitude de déposer des demandes d'activité partielle en cas de difficulté. D'où la question qu'on peut se poser en 2022. Lors de la prochaine crise, est-ce qu'on va mettre en place le même type de mesures et surtout dans les mêmes proportions?
On est assez persuadé que pour le futur, il pourrait être très probablement remobilisé en cas de nouvelle crise sanitaire ou crise économique, crise géopolitique, hein, telle que la guerre en Ukraine, ou crise écologique. On pense que c'est un des principaux outils mobilisables, parce qu'il y a un autre changement quand même dans la gestion de cet outil, c'est qu'avec la crise de la COVID-19, il a été rendu encore plus souple et dynamique et facile à mobiliser, quoi. Après, dans ce contexte, bien sûr, il y a une vraie question de fond sur le devenir du dispositif, sur son mode de pilotage et sur son financement.
La question de fond sur son pilotage, c'est notamment celle-ci. Comment penser l'activité partielle à long terme et son financement lors d'une prochaine crise? C'est un équilibre instable pour l'instant. En définitive, éviter des vagues de licenciements économiques dans les grandes entreprises et leur permettre d'absorber un choc exogène. Ça peut s'organiser de différentes manières. On a choisi de protéger à la fois les salariés et les employeurs, avec l'extension de l'activité partielle. Mais attention, ça concerne avant tout celles et ceux qui étaient déjà bien protégés, comme le rappelle Coralie Pérez.
Maintenant, il faut bien voir que le chômage partiel concerne des salariés stables en emploi et qu'il n'est en aucune sorte un outil qui permet de sécuriser l'emploi et les trajectoires des salariés les plus précaires, hein, qu'on trouve notamment dans le secteur du nettoyage, dans la restauration, enfin tous les travailleurs saisonniers temporaires n'ont pas véritablement accès à ce dispositif. Donc il ne peut pas être le seul outil, voilà, de préservation de l'emploi et d'amortisseur de la crise pour tous les salariés.
Alors, que peut-on conclure de tout ça? Si vous êtes en CDI ou en contrat à durée limitée long, la prise en charge en situation de crise se fait par de l'activité partielle. Surtout si vous êtes en CDI dans un emploi pérenne. Ça dépendra bien sûr de la nature de la crise. Une grosse crise financière, même avec des mesures de soutien public, ça finit par liquider beaucoup d'entreprises et détruire des emplois. Mais une crise inflationniste avec des difficultés sectorielles importantes, comme on la vit actuellement à cause de la guerre en Ukraine, c'est finalement une bonne occasion d'avoir recours au chômage partiel. Si vous êtes en revanche intérimaire, en CDD court ou apprenti, la prise en charge se fait par l'assurance chômage. En fait, il faut comprendre que ce dispositif d'activité partielle protège, parmi l'ensemble des actifs occupés, les salariés la plupart du temps en contrat long. Il est complémentaire à d'autres dispositifs de soutien comme l'assurance chômage, dont une des missions est de couvrir les pertes d'emploi des personnes dont les contrats sont rompus ou non renouvelés, en particulier en temps de crise. Celles et ceux qui sont sur les marges du marché du travail, les stagiaires ou les auto-entrepreneurs par exemple, ne rentrent pas actuellement dans le champ ni de l'activité partielle, ni de l'assurance chômage, et n'ont donc que peu de protection en cas de crise. Du point de vue de l'ensemble du système, la réponse à cette question est un peu différente. Le déficit de l'assurance chômage s'est notamment creusé en raison du fort recours à l'activité partielle pendant la crise. Il y a comme un effet de vase communicant ici. Mais à plus long terme, reste à voir comment l'activité partielle sera utilisée en cas de crise. Du point de vue des entreprises, c'est assez confortable de pouvoir disposer de fonds publics le temps que la crise passe, tout en maintenant les salariés en emploi. Reste à voir si on leur donne une fois de plus la possibilité d'accéder très facilement à des fonds publics, avec notamment l'objectif d'éviter que se crée un chômage important. Pourquoi rapprocher ces deux notions alors ? L'assurance chômage, c'est depuis 60 ans le mécanisme par lequel les chômeurs sont protégés individuellement. Le chômage partiel, en fait, ce n'est pas une assurance chômage. C'est plutôt une manière pour les entreprises d'éviter de licencier, au contraire. Donc, s'il se développe en cas de crise, c'est finalement pour protéger les salariés à l'échelle de l'entreprise, tout en augmentant un peu les possibilités de formation professionnelle. Ce n'est pas la même logique, et ce ne sont pas les mêmes dépenses, parce que ce sont deux manières différentes pour les pouvoirs publics de répondre à une crise économique. À suivre. Splash est une émission de nouvelles écoutes. Elle est écrite et présentée par moi, Emmanuel Martin, produite par Marine Rowe, coordonnée par Mathilde Jeunin avec l'aide de Charlotte Quéré, mixée par Adrien Beccaria à l'arrière-boutique studio.